Une vie, une œuvre, Yehudi Menuhin, 1916, New York, 1999, Berlin. Un enfant qui s'ennuie à l'école, mais très vite, saura vibrer avec le violon qui accompagne son enfance. Yehudi Moshevitch Menuhin a impressionné tous ceux qui l'ont entendu. La musique était sa respiration, mais aussi une arme pour adoucir le cours des drames humains. Durant la Seconde Guerre mondiale, il donne plus de 500 concerts pour les Alliés et la Croix-Rouge. Il s'engage et soutient Solzhenitsyn, Rostropovitch, Amnesty International, autant que les jeunes enfants de Zigane. Il crée une fondation dont une des tâches est de rappeler aux institutions politiques, culturelles et éducatives la place centrale de l'art et de la créativité dans tout processus de développement personnel et sociétal. Anobli par la reine Elisabeth II, Lord Menuhin aurait eu 100 ans cette année. Claire Pouli-Borgeau signe avec Angélique Thibault « Une vie, une œuvre, Yehudi Menuhin ».
L'histoire a commencé, en ce qui me concerne, elle remonte à une époque où j'avais 5 ans, quand je l'ai entendue pour la première fois, sur disque, et ça a été une véritable mise à feu. Et là, j'ai eu le sentiment d'une présence tellement forte, tellement illuminante, que bien entendu ça a déterminé une grande partie de mon existence.
J'ai rencontré le son de Monsieur Menuhin quand je devais avoir 9 ans, quand ma petite mère m'a fait découvrir le concerto de violon de Beethoven.
Gilles Appape, violoniste.
Je suis tombé absolument sous le charme du son du violon, je ne savais pas qui était ce monsieur. Seulement le son même de son violon a décidé de ma vie. Disons 11 ans, ma maman m'a offert un livre sur M. Menuhin que je lisais avec tellement de... Il n'y avait pas beaucoup d'argent à la maison, donc la couverture était complètement usée, qui a été reliée. Un petit livre que j'ai toujours, bien sûr. C'était très bien fait, c'est une belle reliure. Et à 12 ans, donc un premier concert où tu mets une cravate.
Dans la tente de Menuhin. L'orchestre de la Société du Conservatoire est installé sur la scène.
Et c'est là où j'ai aussi demandé un premier autographe, donc de Monsieur Menuhin.
Avec Menuhin. Les voici.
C'est quand même le violoniste qui a le plus marqué son époque, qui a, je dirais même qu'il a d'une certaine manière défini la sensibilité d'une époque.
Je connais tous les enregistrements de sa jeunesse. Je les ai écoutés des millions de fois.
Valérie Sokolov, violoniste.
On sait que c'est Menuhin à la première note.
Ça, c'est 1936, ça, c'est 1943, ça, c'est... Je peux... Vous savez, comme les gens qui goûtent le vin.
What is very extraordinary to any violinist, it is the...
Ce qui est extraordinaire pour un violoniste, c'est sa manière étonnante, si naturelle de jouer. Et cet incroyable son qui brûle le cœur. On est comme transformé à son
écoute.
Il ouvre de nouvelles portes à la musique, de nouvelles exigences dans le jeu du violon. Les enregistrements les plus profonds sont ceux de sa jeunesse. Aussi un peu plus tard, après la guerre, en Russie. Ces merveilleux enregistrements du concerto de Beethoven, par
exemple. Know that it's Menuhin when he is playing.
Faites-moi écouter
note.
Une seule note, je reconnais que c'est Menuhin immédiatement.
Put any recording, I would know it's Menuhin playing.
C'est Menuhin.
Because there's something about the touch.
Son doigté.
Jamais je n'ai eu des émotions aussi intenses dans tous les domaines, moral, amour, que j'avais à l'âge de 6 ans, 7 ans et 8 ans. Le violon était vraiment essentiel pour moi.
C'est ma mère qui m'a amené à la toute première leçon avec Persinger. Je crois que j'ai joué pour lui quelques secondes, quelques minutes. Mais au lieu de me donner une leçon, après avoir dit qu'il allait m'accepter, il a joué l'adagio de la sonate en sol mineur pour ma mère et moi. Je trouve ça comme introduction au violon et comme introduction à ma carrière une chose assez symbolique, qu'il ait choisi de me donner l'exemple de la plus noble musique en me jouant lui-même d'une façon vraiment très très belle, inspirante. Ma mère et moi nous sommes sortis de ce leçon presque n'osant rien dire, tout à fait emporté par la beauté de la musique et par ce geste de Persinger.
Presque voulais décrire dans les termes d'une lettre que m'a adressée Menuhin.
Bruno Mont-Saint-Jean, violoniste et réalisateur.
Les dernières lettres que j'ai reçues de lui.
Réaliser les implications de mes origines.
Mon père. Chantant. Préoccupé par l'avenir. Faisant des plans. Et ma mère dansante. Vivant dans le moment. Et engueulant son mari, toi moché avec tes plans. Je me demande s'il n'y avait pas même une certaine part de, non pas de snobisme, mais de conscience sociale très très forte qui voulait faire en sorte, surtout de la part de la mère, de la part de Maruta, qui voulait arracher ses enfants à ce qui aurait pu être un ghetto juif. Elle-même se revendiquait d'ascendance tartare. Elle se disait être une princesse tcherkesse. Elle avait un certain mépris pour son mari, qui était typiquement juif d'Europe centrale, enfin de Gomel en Biélorussie. Un type très très charmant, mais très 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 exalté. Enfin, il était tout le temps en train de brûler pour des causes. Alors qu'elle, elle tenait sa musique, disons.
Ma mère, une femme d'une force inouïe, décision absolument ferme, opiniâtre, remarquable.
Et c'est elle qui choisit votre prénom?
Oui, c'est elle qui a
choisi. Ce prénom Yehudi, très marqué.
Donc, oui, vous voyez, c'est elle qui, quand mes parents cherchaient un appartement avant que je ne suis né, elle, voulant justement vendre son appartement, elle disait, vous savez, c'est un appartement, vous aimez bien, beaucoup d'air, lumière, et nous n'acceptons pas les juifs. Alors ma mère, tout de suite, hein, ça, et s'il sera un garçon, il sera nommé. Yehudi, comme ça, il n'y aurait pas de confusion, de doute.
Yehudi, c'est le juif.
Voilà.
Parce qu'il y avait Yehudi, il y avait Hephzibah, sa sœur cadette de 4 ans. Vous n'imaginez pas le charme le charme de cette Hepzibah. Elle était d'abord très jolie. Elle était une pianiste de génie. Et puis, cette intelligence, la culture. Vous savez, ils se moquaient un peu d'elle parce que ils ont appris des langues très très jeunes. Et alors, Yehudi et Yalta, la troisième, consultaient très souvent Hepzibah sur des questions de grammaire en français. Jamais ne faisait une erreur, elle connaissait la grammaire française impeccablement, en russe, en allemand, en italien, tout ça, elle parle parfaitement. Et il l'appelait Madame Larousse. Donc il y avait ces enfants qui n'ont jamais été à l'école.
Marianne Poncelet, le premier jour, il avait vu...
Vice-présidente de la Fondation Yehudi Menuhin.
Je crois que c'était une demi-journée, et il regardait pendant tout ce temps une branche à travers la fenêtre, et il se demandait quand un oiseau allait se poser sur cette branche, et c'est ce qu'il a raconté à sa maman. Du coup, sa maman l'a tout de suite retiré de l'école, lui a dit « Bon, maintenant c'est fini, tu travailleras à la maison avec des professeurs, à l'époque c'était possible. »
C'était quand même très marquant de voir l'autonomie de pensée de ces gosses qui avaient été éduqués par des précepteurs privés sous la férule de Maruta, de la mère. Une discipline absolument forcenée. La journée était divisée entre les leçons de mathématiques, de géographie, de langue. Et dès le début, ils lisaient la Divine Comédie de Dante sur les plages en Europe quand ils venaient à 10 ans, en italien. C'était ça leur distraction. Alors ça a donné une culture tout à fait libre, sauvage, et qui faisait une grande part de leur charme et de leur aisance à se trouver partout dans le monde.
C'est une vie vraiment qui a été, qui est bénie, malgré et même parce que elle a dû passer par certaines difficultés, par ce même fait, bénie. Une chance extraordinaire, et ma musique est une source de joie permanente. Je suis accueilli partout avec bonté et sympathie. C'est une vie vraiment très très bénie. Mais cette chance, j'aurais voulu que ce soit partagé par tous les autres. Parce qu'une chance, je ne peux jamais être heureux que quand, vraiment heureux, que quand je trouve que cette joie est partagée.
Était établi à Ville-d'Avray, rue Pradier, où je vais de temps en temps faire un pèlerinage. Une maison qui appartenait aux parents de Boris Vian. Ce qui fait que Yehudi, j'ai des belles photos de Yehudi jouant aux échecs avec Boris Vian. Et à Ville-d'Avray, il faut imaginer, d'abord c'est merveilleux d'y aller parce que vous voyez cette maison et vous entendez quasiment les effluves sonores sortir du poème, du chanson, de tout ce que Yehudi devait travailler. Et puis, c'est là qu'est né le duo avec Hepzibah. Des séances de musique de chambre. Vous imaginez ce que c'était? Tous les quatuors de Beethoven, tous les quatuors de Haydn, tous les quatuors de Brahms, de Shakespeare, tout est passé. C'est incroyable. Ah, j'aurais vraiment... je voudrais tellement avoir 30 ans de plus et avoir vécu ça. Yehudi au premier violon, Jacques Thibault au deuxième violon, Enesco à l'alto. Et quand ce n'était pas Enesco, c'était Pierre Monteux, le grand chef d'orchestre, qui était Maurice Eisenberg au violoncelle. Les pianistes étaient Alfred Cortot ou Georges Enesco ou Hepzibah lorsqu'elle s'y est mise. Et puis, de temps en temps, c'est Vladimir Horowitz. Enfin, je veux dire, c'est tout ce monde-là accourait vers les Menuhin.
Un jour, je recevais
Paul Paré.
La visite d'un jeune gosse.
Il avait quel âge? 7 ans
8 ans et demi.
8 ans et demi.
Un gosse, tiens, en joue. Bonne quibolle. Pas du tout l'impression d'une fleur poussée en serre. Et alors, je dis à sa mère, mais qu'est-ce qu'il peut me jouer? Oh, tout ce que vous voudrez. Tout ce que je voudrais, c'est beaucoup. Et elle me tend un immense paquet de musique qu'elle avait apporté avec elle, et qui contenait toutes les œuvres du répertoire violonistique. Les concertos de Bach, les concertos de Mozart, le concerto de Tchaïkovski, de Wieniawski, la symphonie espagnole de Lalo, le Brahms, le Beethoven, enfin...
Il y avait tout.
Tout, toute la littérature. J'ai dit, mais encore, qu'est-ce qu'il peut me jouer? Ce que vous voudrez, maître. Je choisis à tout hasard, je prends la symphonie espagnole de Lalo, l'œuvre française caractéristique. Nous allons voir. Et j'attaque, pam, 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 l'orchestre j'attaque. Et j'entends derrière moi un départ foudroyant de sécurité, de force, de justesse, de rythme. Et tout le premier moment se développe pour moi dans un émerveillement. Je ne savais plus où je me trouvais, j'en étais absolument ébloui. Je me rappelle, je me suis retourné sur les dernières notes, j'ai pris le gosse dans mes bras, je l'ai embrassé, comme ça plusieurs fois sans m'arrêter, en me disant peut-être que je me trouve devant un cas tout à fait exceptionnel, je me trouve peut-être devant un nouveau Mozart. Il y a eu des gens qui ont eu la chance de toucher la main, de voir Mozart en chair et en os, de toucher sa main, c'est peut-être un bonheur qui m'est donné aujourd'hui.
Le premier concert de Menuhin à Berlin, en 1929, il n'avait pas encore 13 ans. Dirigé par Bruno Walter. Et vous savez ce qu'il a joué? Trois concertos. Les trois concertos les plus imposants du répertoire. Bach, mi majeur, Beethoven et le Brahms. C'est absolument inconcevable. Inconcevable. On peut avoir un môme qui se débrouille avec le concerto de Beethoven et on peut avoir un môme qui se débrouille avec le concerto de Brahms. Mais les trois concertos de la même soirée et avec une assistance où tous les violonistes et toute l'intelligentsia de Berlin étaient là. Albert Einstein était présent, Fritz Kreisler était présent, Bronislaw Uhlen, ils étaient tous là. Il paraît que c'était quelque chose, ça a dû quelque chose d'absolument prodigieux. Albert Einstein est venu dans la loge après le concert, a embrassé le môme et lui a dit « Maintenant je sais qu'il y a un Dieu au ciel ».
Je l'ai entendu pour la première fois juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et ça a été très important pour moi puisque nous sortions de ce conflit avec les nuits de bombardement, les cauchemars des camps et les ventres ouverts dans les fossés. Et je me souviens très bien d'avoir entendu pour la première fois
Michel Serres.
Quelque chose, le larghetto du concerto de Beethoven. Et il m'a dit, quand je l'ai rencontré pour la seconde fois, lorsque nous sommes devenus amis, que son maître, lorsqu'il avait étudié ce larghetto, avait écrit sur la partition « Worship », « Adoration ». Et j'ai le sentiment à cette époque d'avoir rencontré quelque chose de plus que la beauté certainement, mais cette alliance mystérieuse qui existe, entre la beauté absolue et la présence de Dieu, d'une certaine manière, puisque worship, il faisait partager cette adoration, vous voyez. Et quand nous sortions de cette période-là, on recevait par cette présence une sorte de blessure dont la cicatrice ne s'est jamais refermée. Je crois que je souhaiterais à tous les enfants du monde, dans leur vie, une fois, de recevoir ce coup, cette espèce de coup qui est la mise en présence de la parfaite beauté, mais plus que de la beauté, de le sentiment d'un autre monde. Et du coup, il y a un autre mot que Yehudi reprend quelquefois, il emploie souvent le mot « serviteur ». Et j'avais reconnu à cette époque qu'il était qu'il était un grand violoniste, bon, mais qu'il était aussi le serviteur d'autre chose. Et en effet, quand on est en présence de cette alliance mystérieuse entre la beauté et la présence de la transcendance, on devient en effet un serviteur.
En présence de Menuhin, on avait très profondément et très fortement l'impression d'un phénomène divin, qu'il était habité par une étincelle divine. Cette manière de jouer du violon, ce visage magnifique, mais de voir surtout cette pureté, il y avait ce sentiment d'une telle transcendance.
Sur un train, un jour, je me rappelle très bien, entre Zurich et Berne, il m'a dit qu'un don doit être nourri et doit être protecté.
Zamira Bentoul Menouin, fille de Yehudi Menouin.
Attendre qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec un don. Par exemple, mener une vie très mondaine, très riche, on perdrait le sens du don. Je ne sais pas si vous comprenez cela, mais j'ai compris très bien ce qu'il voulait dire, que c'était un devoir pour lui d'avoir un don. Et je crois qu'il a vraiment protégé son don très bien. Il avait beaucoup plus que ça. Quand il était un enfant prodige, il a joué avec une profondeur très remarquable, qui était genuine, qui était vrai. Ça venait de son âme et son cœur, et il était très intelligent et très soucieux pour, même à cette époque, quand il était très jeune, pour les gens qui avaient moins que lui.
Un jour, j'étais à Paris, l'on me dit, Yehudi cherche quelqu'un pour le perfectionner. On me le présente.
Georges Enesco.
Je le vois encore, campé devant moi, les yeux dans mes yeux, l'air décidé, me disant avec une petite voix flûtée irrésistible, « I want to see you. » Mon Dieu, j'allais partir pour la Roumanie. Mais mon petit, je pars pour 2 mois. Mais il était si obstiné. « I want to see you. » L'enfant vient avec son père. Je l'entends. Il me joue la symphonie espagnole de Lalo. Je me dis et je dis au père, « Mais voilà un artiste tout formé. Nous avons travaillé ensemble Barbeto, Chausson, Franck. Si vous saviez la manière dont il jouait à 10 ans le poème de Chausson, il me semble l'entendre encore. Ouais, à 10 ans, il jouait comme s'il en avait 30. Et il était non seulement un technicien remarquable, mais un poète, un passionné. Il était en transe. Il nous faisait peur. Je me disais, voilà un enfant qui va s'user prématurément. Il y a eu chez Yehudi un état d'enfance curieusement prolongé. Un jour, je lui ai dit, vous allez être un homme, Yehudi. Vous allez avoir 17 ans. Comment envisagez-vous votre avenir? J'entends encore résonner sa réponse. Oh, me dit-il, je voudrais tant rester enfant toute ma vie.
Children, as far as I can judge, have this tremendous ability to feel terribly intensely. In a way, more intensely, because we have learned to live with what we cannot change. To live with
les enfants ont cette immense capacité à ressentir les choses de manière très intense.
Plus tard, nous apprenons à vivre avec ce que l'on ne peut pas changer, l'injustice, la torture. Mais enfant, on ne peut absolument pas vivre avec ça. On se dit qu'on fait quelque chose, qu'on doit faire quelque chose.
If it were in the Sistine Chapel, in the Vatican for the Pope, then all the ills of the world would disappear.
Moi, j'imaginais que si je jouais de manière très belle la chaconne de Bach dans la chapelle Sixtine au Vatican pour le pape, eh bien tout ce mal disparaîtrait de la terre. C'était enfantin, naïf. Mais c'est ainsi que les enfants sentent les choses.
Epsiba ont enregistré un répertoire considérable.
Bruno Mont-Saint-Jean.
Et sur une période qui va donc de 1932 à la mort d'Epsiba, la mort prématurée d'Epsiba, le 1er janvier 81. Donc 50 ans d'activité d'enregistrement. Ce duo, c'est peut-être le premier véritable duo d'histoire. Par duo, j'entends deux personnes qui ont une totale symbiose et qui ont joué pendant une vie entière, puisqu'ils ont démarré ensemble lorsque Yehudi avait 16 ans et elle en avait 12.
It was inevitable. It was so natural.
C'était si naturel.
It had to be. Whatever she did, I did. Whatever I did.
Cela devait arriver. Ce que je faisais, elle le faisait.
We were both raised in music.
Ce qu'elle faisait, je le faisais. La musique jaillissait comme ça, de nous deux. Nous étions comme deux gouttes d'eau.
Voilà, 6 minutes 46, ça dure.
Août 1974, Henri Jaton avait rencontré Epsiba Menuhin-Akstad. C'est cet entretien que nous vous restituons maintenant.
Est-ce que votre frère Yehudi Menuhin, au moment où vous formiez avec lui un duo d'enfants prodiges, a-t-il exercé une certaine influence sur votre propre formation ?
Il est arrivé une fois seulement, je me souviens quand nous étions en tournée aux États-Unis et nous jouions une sonate Bartok avec mon frère. Et il me semblait que ça avait assez bien marché. Mais quand même, j'étais consciente pendant que nous jouions que mon frère était ennuyé avec moi. J'avais l'impression qu'il était fâché. Il faisait des sauts, des choses nouvelles qu'on n'avait pas discutées. Il avait l'air d'être vraiment ennuyé. Et quand nous sommes sortis de la scène, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'étais pas content avec moi ?» Et il m'a dit « Non, j'étais vraiment embêtée avec toi. » Et j'ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « Pourquoi tu me suis de si près ? De temps en temps, pourquoi tu ne dis pas ce que tu as envie de dire toi-même ? Ne répète pas toujours ce que je suis en train de dire moi-même. Querelle-toi quelquefois avec moi. Dis-moi quelque chose de neuf. Fais quelque chose d'inattendu. Donne-moi une surprise. Il a dit, je ne veux pas que tu deviennes une copie. Et alors, j'ai vu que c'était vraiment une chose sérieuse, qu'il n'était pas content. Il me disait, tu ne peux pas rester enfant toute ta vie. Il faut que tu fasses quelque chose pour ton compte, à toi-même, quand tu joues avec moi. Et depuis, nous avons des conversations, des causeries où nous nous amusons, mais follement, à faire des choses neuves, nouvelles, un pour l'autre, une pour l'autre, et des fois on aborde un morceau avec un intérêt tout à fait neuf, avec une intensité nouvelle, et puis alors la conversation va dans une direction où on n'aurait jamais cru, et le morceau est toujours nouveau, toujours un miracle de nouvelle vie.
Volker Bissenbender, violoniste,
professeur d'improvisation à Zurich.
The violin is a voice. It is a vocal cord outside the body and Menuhin.
Le violon est une voix, c'est une corde vocale en dehors du corps. Et Yehudi Menuhin, dans la bonne tradition juive, chante sur ce violon. Il a d'ailleurs lui-même une très belle voix. Un jour, je me souviens, je devais jouer avec lui comme chef d'orchestre le concerto de Bartók. Nous avions très peu de temps pour répéter. Et dans le taxi qui nous emmenait vers la salle de concert, il y avait 80 km à parcourir, il chantait chaque partie de l'orchestre avec une belle voix de ténor. C'était exactement comme s'il jouait.
Le violon, comme je dis toujours, est une prolongation de la voix. C'est l'instrument le plus proche de la voix, l'instrument le plus intime, l'instrument qu'on porte avec soi, l'instrument qui est le plus sensible aux sensations, à l'émotion personnelle. C'est donc un moyen d'expression très... un instrument en soi-même des plus beaux comme forme, quelque chose qu'on peut aimer, qui est à la fois sensuel et qui appartient à l'âme. Un instrument qui est facile à transporter, donc sans racines, on amène le violon, n'est-ce pas? Et aussi, le violon appartient à une autre race nomade, parce que le juif n'est pas nomade, il est errant, si vous voulez, mais il est urbain et littéraire, tandis que les tziganes, c'est une race nomade qui ont leur propre langue, et qui ne sont pas urbains. Mais là aussi, le violon est l'instrument qui exprime le peuple tzigane. Et je crois qu'il y a une relation entre ces deux peuples qui est très proche, qui devrait être très proche, parce que le tzigane et le juif, ce sont deux pôles d'une même condition, justement une condition où on n'a pas un sol unique sous ses pieds, une condition un peu qui comprend les ailes et le vol, avant que le vol n'ait été inventé. Un rabbin que nous connaissions bien à New York, de Solapool, il est mort maintenant, un homme très distingué, m'a dit que quand il était en Palestine, au début du siècle, ce qui est maintenant l'Israël, il y avait une émigration assez grande de juifs de la Russie, et il dit, c'était incroyable, il dirait que sur chaque 10 personnes, il y avait 8 personnes avec une boîte à violon.
C'est un type qui a tellement voyagé, qui était passionné, tout simplement. Il avait envie de savoir ce qui se passait. Tout le monde joue du violon. Dans tous les pays, tu vas toujours voir un violon. Ça peut être un violon, un rebab ou un... tout le monde joue du violon. Donc il y a des folklores différents, il y a des gens différents. Je pense qu'il était vraiment attiré par les gens, tout simplement.
Et j'ai rencontré en Roumanie, en 27, les premiers tziganes. Ça, c'est vraiment le grand événement. De connaître cette nature extraordinaire, riche et beau, plein des humains qui appartenaient, donc de vrais paysans, de vrais tziganes, de vrais marchés où jouaient les tziganes, où on pouvait acheter ces vêtements merveilleusement, tissés, oui, très très beaux.
J'arrivais à Budapest, première étape, par un petit matin de printemps encore transi. Nos amis tziganes m'attendaient près du Danube. La voix étranglée d'émotion, ils me dirent que Yehudi venait de mourir, cette même nuit, à Berlin. La terre vacilla, au bord de ce grand périple. Qu'allait devenir cet immense rêve qu'il avait formulé quelques semaines plus tôt, dans l'enceinte même du Parlement européen, à Bruxelles, donner une voix aux minorités culturelles les plus menacées. Je l'entendais encore redire avec passion son engagement, tandis que nous franchissions le Danube sur le pont de Chêne, désert, à 7 heures matinale. Nous avons pris la route, de centres sociaux en écoles et maisons communautaires tziganes, de Pech à Manfa, dans les villages et les campagnes, et jusqu'aux confins de Transdanubie. Parmi les bras morts de la Drave et les marécages, zones frontalières et no man's land, terre de relégation des tziganes.
Dans l'Europe centrale, toujours, je trouve le nom du rideau de fer. Ce sont les peuples les plus musiciens, naturellement, le folklore le plus riche, de la Lituanie jusqu'en Grèce. Tout, les Hongrois, les Bulgares, les Tchèques, les Polonais, tout ça. Et c'est pourquoi j'ai dit que le rideau de fer nous a séparés de notre ferment musical, de tout ce qui nous rend productif en musique, et que je suis content qu'on se réunit peu à peu avec ces peuples qui appartiennent à l'Europe autant que nous.
Je me souviens que la dernière rencontre,
Mireille Gancel,
quelques semaines,
poète et traductrice,
avant le décès de Yehudi Menuhin en 1999 à Bruxelles, il avait pu de haute lutte obtenir que non pas dans la grande salle de l'Assemblée, mais dans une des grandes salles de l'Assemblée du Parlement européen à Bruxelles, puissent se réunir ce qu'il appelait les représentants, les mandatés, les médiateurs de ces nombreuses cultures qu'il appelait les cultures d'une part menacées et d'autre part des plus pauvres et des sans-voix. C'était le grand rêve et qui montrait sa vigilance politique, nourrie par toute son histoire personnelle aussi, bien sûr. Et puisque la première grande réunion de l'Assemblée des cultures d'Europe a eu lieu en 97, et pour lui, ça s'inscrivait dans l'avenir de l'Europe après la guerre froide. Un avenir qui ne soit pas l'Europe des bureaucrates technocrates, comme il le disait lui-même, mais l'avenir des cultures, des diversités, des solidarités et des engagements humains.
Yeah, well, he also, I mean, he, as far as I know, he talked in front of the.
Je sais que Yehudi Menuhin a fait un plaidoyer en faveur des Tziganes devant l'UNESCO.
L'Europe sera l'Europe que nous souhaitons le jour quand un Tzigane pourra voyager de la Turquie jusqu'en Irlande sans aucun obstacle.
And he made a plaidoyer for having the gypsies in the European Parliament.
Il voulait que les Tziganes soient représentés au Parlement européen.
The gypsies, they like Menuhin so much that I know a few.
Les Tziganes aimaient tellement Menuhin que j'en connais certains qui ont prénommé leurs enfants
Menuhin. I imagine that it's a kind of ward magic.
Comme une sorte de mot magique. They make, call him afin que leur enfant devienne lui-même un merveilleux violoniste.
In his late years, he was also quiet. He took.
Et dans ses dernières années, il avait aussi fait entendre calmement une parole politique. Il affirmait, comme juif, qu'Israël ne devait pas agir comme elle le faisait. Les gens en Israël étaient très partagés sur Menuhin. Certains le dénonçaient comme ennemi. D'autres se souvenaient que juste après la guerre, alors que le reste du monde, sous le choc, ne voulait plus entendre parler de l'Allemagne, il avait été le premier à tendre la main pour une réconciliation.
D'ailleurs, le morceau juif qui avait le plus grand effet de ma vie, c'était lorsqu'après la guerre, j'ai joué des récitals en Allemagne et j'ai joué le Kaddish de Ravel.
Je ne sais pas si je trouve ça formidable ou naïf.
Là, vous ne pouvez pas vous imaginer.
Naïve, I can't say.
C'était une chose vraiment à vous faire frémir, une chose extraordinaire. Alors, le symbolisme de ce morceau joué en Allemagne, c'était vraiment. J'aime pas parler de ces choses. On les connaît trop bien. Ils sont trop pénibles, mais c'était justement le symbolisme de l'Holocauste. C'était ça qui impressionnait les Allemands aussi. Enfin, à jouer devant ceux qui se sentent coupables. Le morceau qui évoque les morts dont ils sont coupables, ça c'est demander beaucoup, mais aussi ils ont donné beaucoup. Il faut dire ça pour le public allemand, que le public à Hambourg, à Berlin, quand je jouais le Kaddish, ils étaient là vraiment très très profondément remués, profondément émus.
After the war, he played in Bergen-Belsen, as one knows, and he played in Majdanek in Poland, which one doesn't know very well.
Après la guerre, c'est connu, il a joué au camp de Bergen-Belsen et aussi à Majdanek en Pologne.
He made a tour.
Il y est allé avec le formidable chef d'orchestre anglais Benjamin Britten.
Conductor Benjamin Britten to these places, and it was the biggest shock of his life.
Cela a été le plus grand choc de sa vie.
This was a terrible shock for him. He played for these survivors.
C'était terrible. Il a joué pour les survivants. Et un jour, je l'ai évoqué devant lui. Mais il n'a pas pu parler.
Tears in his eyes.
Il avait des larmes dans les yeux.
50 years after.
50 ans après.
I mean, he gave a plaidoyer for Furtwängler, for this famous German conductor.
Il a aussi soutenu Furtwängler.
Well enough. Separated himself from the. I mean, he was, of course, he was not a Nazi, but he had a.
Ce très célèbre chef d'orchestre allemand, qui ne s'était pas assez clairement séparé du parti nazi.
From this. And so the whole world was against Furtwängler.
Évidemment, il n'était pas nazi, mais il n'avait pas établi de séparation assez nette avec les nazis. Tout le monde était contre lui.
There was Karajan, and Karajan was a real Nazi.
Ce qui était étonnant, car au même moment, il y avait Karajan, qui lui était un vrai nazi. Mais pour certains, il n'y avait pas de problème pour
Karajan.
Alors que Furtwängler, il le rejetait.
Minuit débute par le concerto de Mendelssohn.
Concert à l'Opéra de Paris, 1945.
Mendelssohn était interdit par les lois nazies depuis 4 ans. Minuit lui donne, vous allez l'apprécier, une chaleur et une clarté renouvelées. En voici un court passage. Thank you.
also in America they boycotted him and many people boycotted him in the
Même aux États-Unis beaucoup de gens l'ont boycotté, people. Des gens très connus.
Isaac Stern, Rubinstein the pianist.
Isaac Stern, Rubinstein le pianiste, Leonard Bernstein, parce qu'il avait soutenu Furtwängler.
They kind of boycotted him because he had fought for Furtwängler.
Il était très connu, il avait beaucoup d'influence sur des personnes
so
très diverses.
Many people and very different people. I mean, he's the gypsies love him, the
les tziganes l'aimaient.
Dictators love him, the
les dictateurs l'aimaient.
The companies, the business companies love him, the
les entreprises l'aimaient, les institutions sociales l'aimaient.
The politicians love him, everybody. I mean,
les hommes politiques l'aimaient, tout le monde.
About Menuhin that many
Je veux dire, il y avait un certain consensus autour de Menuhin. Chacun se réclamait de lui. Il était en effet avec les uns, mais il était aussi avec les autres.
And it's, one place for criminals.
Une place pour les criminels.
I would play also for criminals.
Moi aussi, je jouerais pour les criminels.
This is part of the peace, message of music.
Cela fait partie du message de paix de la musique.
Play for both, but at this time,
Vous jouez pour les deux parties.
Very well. Again,
Encore une fois, ce sont les deux facettes de Menuhin. D'un côté, très courageux, de l'autre, un peu naïf.
Il s'est donné pendant la guerre sans faire très attention aux conséquences physiques. Que cette chose, il allait jusqu'à donner 3 ou 4 concerts par jour. Dans les hôpitaux, dans les baraquements, dans le fin fond du Pacifique, aux îles Aléoutiennes, sans chauffage, voyageant dans les bombardiers, se donnant avec des pianos remplis de canettes de bière, jouer pour des soldats qui n'avaient jamais été au concert, qui probablement ne connaissaient pas le nom ni de Schubert ni de Bach. Et Yehudi leur a porté, il n'a jamais fait de compromis, là. Il ne s'est pas mis à leur jouer des chansons de variété. Ce qui fait qu'il n'a pas que ça n'ait pas éteint sa fraîcheur, ça c'est extraordinaire. Et puis, c'est la vie qu'il a menée, certainement pendant la guerre, à la fin de la guerre, a dû être absolument un motif d'épuisement total. Donc il y a ce facteur. Il y a aussi un autre facteur qui est plus compliqué psychologiquement, la culpabilité. Il a dû se sentir coupable de sa carrière, pour son environnement familial. Ça se manifestait de manière physique, cette crise intérieure, par un archer qui était devenu beaucoup moins fiable. Donc il a dû retravailler la totalité du répertoire en fonction de ça, trouver d'autres manières d'autres doigtés, d'autres coups d'archer. Il a tout repensé. D'une certaine manière, le fait qu'il ait surmonté cette crise, et c'est peut-être l'expression la plus forte de son génie.
Au fond, je me dirais d'abord, je n'admets pas d'être traité en sage. Je me connais trop bien pour être de votre avis, pour accepter cet hommage. Je ne suis pas sage, j'ai quelques idées peut-être sur l'équilibre intérieur, l'équilibre entre éléments de la société, l'équilibre en musique, en art. Mais j'ai tout de même, heureusement, peut-être encore des éléments de déséquilibre qui garantissent un élément de tempérament et quelquefois même de colère, si justifié ou non, je ne sais pas, peut-être moins que d'autres, mais il reste encore suffisamment de déséquilibre pour me rendre très très humain.
I think said in English, he was a man before his time. He was not. He came with the most extraordinary ideas. Et à l'époque où on entendait ses idées sur yoga, sur la musique indienne, sur toutes sortes de choses, c'était comme qu'est-ce que c'est que ça? Oui, la diète. On ne pouvait pas manger du sucre comme enfant, nous ne pouvions pas manger de la farine blanche. et tout ça. Et maintenant, tout le monde qui a une idée de la santé ne mange pas du sucre, pas trop de sucre. Et il était avant 100 ans. Ouais.
So here's an amazing open-minded, one of the greatest legendary persons.
C'était quelqu'un d'étonnamment ouvert d'esprit. En plus d'être un grand homme, il avait la vision que chaque culture pouvait apporter grandeur, unité et paix à travers la musique.
El Subramaniam, violoniste.
Hardly a Western musician played with anybody.
Un musicien occidental jouait rarement avec d'autres musiciens. Dans la musique indienne, nous jouons selon deux échelles quand nous jouons un raga.
Our whole concept is when we say we are playing a raga, we don't play up and down the scale. Then we say we are playing a dead raga.
Notre philosophie est d'apporter de la vie dans chaque note. Chaque note est vivante.
It's like every note should have a life. It is, you cannot just improvise back and
forth. Si nous ne faisons qu'une combinaison de notes, nous disons que c'est un raga mort. Pas un vrai raga. Dans le raga, chaque note doit être vivante. Chaque fois que nous avons joué ensemble, le morceau était écrit. Je veux dire, sa partie était écrite. Mais la mienne ne l'était pas. Ce n'était jamais la même, car j'avais l'habitude d'improviser. À chaque fois, cela sonnait différemment. Il était fasciné. Il pensait d'ailleurs qu'il fallait réintroduire la technique de l'improvisation en Occident et l'enseigner aux enfants qui commençaient le violon.
Il
avait une oreille ouverte. Il pouvait écouter des choses très différentes. Il avait un esprit ouvert. Il pouvait ressentir plusieurs émotions. Il avait un œil ouvert. Il pouvait voir plusieurs choses. C'est très rare de rencontrer quelqu'un comme ça. Chaque fois qu'on le voyait, c'était un rayon de lumière, un rayon d'espoir. Il était comme une musique en marche.
You almost don't give yourself enough space to breathe. I mean, all that. It could. Can you play just one note with the fourth finger and try to relax this muscle. This muscle is terribly tight. That's it. Now that's quite loose. Now keep it. That's it. That's it. It's loose now. You feel that feeling there? All right. And you must try to play. When you start playing, instead of concentrating on the notes or even the sound you're making, concentrate on the feel in the muscle. Just relax. You should now look. Lift any of my fingers. Lift them. And lift.
Immersion dans le monde de la musique. On reçoit de la musique partout, de 8h du matin à parfois 9h du soir. Et c'est aussi la communauté de l'école que je trouve assez exceptionnelle. On a des gens de toute la planète. Donc les gens viennent de partout dans le monde. Et je trouve que c'est vraiment un environnement optimal en fait pour faire de la musique. Et pour quelqu'un qui grandit, c'est vraiment sympa comme école.
So in 1945, as the Second World War,
en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Yehudi, qui n'avait pas encore 30 ans, prit un cargo américain pour Moscou.
Malcolm Singer, directeur de la musique à la Yehudi Menuhin School.
Musical education was at the famous Gnesin Academy in Moscow.
Il voulait déjà voir comment était l'éducation musicale dans la célèbre académie de Moscou.
String teaching. In Russia, but
beaucoup de choses lui ont plu dans la manière d'enseigner en Russie. et d'autres moins. Mais c'était le début de sa réflexion sur l'ouverture d'une école à l'Ouest. Ce n'est pas avant 1963, quand il vivait en Angleterre et qu'il travaillait beaucoup avec des musiciens anglais, que sa vision, son rêve, est devenue réalité et que l'école a ouvert ses portes.
Tout de suite, il m'a beaucoup parlé de l'importance pour les enfants, dès le plus jeune âge, de chanter et de danser à l'école, donc primaire, surtout gardienne déjà, mais surtout primaire, avant d'apprendre les disciplines plus sérieuses que sont les mathématiques, les sciences, etc. D'abord chanter et danser le matin, tous les matins, pour pouvoir exprimer ses émotions, que son corps soit dans un lien avec le monde, et aussi que les enfants, à travers le chant et la danse, puissent se connaître l'un l'autre et connaître les traditions musicales des uns et des autres.
And everyone is, it's like a community more than a school, a community of musicians. So I think that does make it.
Cette école, c'est une communauté de musiciens. C'est ce qui la rend unique. Nous avons des cours de yoga, de technique Alexander aussi. Chaque élève de l'école compose. Pour Yehudi, le plus important était l'approche créative de l'enseignement de la musique. Donc nous avons mis en place un cours d'improvisation classique. Par exemple, on improvise sur un concerto de Mozart pour tenter de recréer le type d'improvisation qui existait au XVIIIe et XIXe siècle et que nous avons perdu au XXe siècle. Oui, la créativité est au cœur de l'apprentissage. D'ailleurs, juste avant sa mort, Yehudi pensait à de nouvelles approches éducatives. Nous avons, par exemple, beaucoup réfléchi sur la manière d'enseigner Bach, et particulièrement le double concerto qu'il avait dû jouer des milliers de fois, que j'avais moi-même dirigé des centaines de fois. Mais il arrivait toujours avec de nouvelles idées, de doigté, de phrasé, toujours ouvert à de nouvelles idées, toujours humble. Se remettant en question sans cesse pour jouer de manière plus créative.
Et pour la première fois, au cours de ces séances d'enregistrement du mois de mai 1932 à Paris, le nom de Georges Enesco va apparaître sur une étiquette de disque à côté de celui d'Yehudi Menuhin. Il s'agit du concerto pour deux violons de Bach.
C'est du mariage de deux violons. C'est quand vous avez un violon qui résonne dans l'autre, il y a cette espèce de vibration qui se transmet. Et quand vous avez joué avec Yehudi, ça voulait dire être en vibration avec lui. Lui-même vibrait, il n'y avait pas que le violon qui vibrait, tout en lui vibrait. Vous sentiez que les os émettaient une vibration, c'était absolument extraordinaire. Et il avait une sonorité très très particulière. Mais le fait que cette lumière vous était transmise, vous avez toujours le sentiment qu'il vous disait, voilà, c'est, oui, c'est ma sonorité, mais je t'en fais don.
J'ai eu beaucoup de chance, donc je me trouve à un état avancé de la vie, ayant encore le désir et la curiosité et l'élan et assez d'énergie pour poursuivre les voies que j'avais déjà entamées. Je ne fais rien de nouveau. J'ai fait rien de nouveau depuis ma naissance, enfin, qui n'était pas inscrit déjà dans ma destinée, pour ainsi dire.
Eh bien, le son appuyé la loi.
Yehudi Menuhin, Le violon d'une âme.
C'est très bien, mais c'est trop fort.
Par Claire Pouli-Borgeau,
voilà.
Et Angélique Thibault. Avec Zamira Bentol Menuhin, Bruno Mont-Saint-Jean, Gilles Appape, Volker Bissenbender, Valérie Sokolov, El Subramaniam, Malcolm Singer, Marianne Poncelet et Mireille Gancel.
et les voix de Yehudi Menouin, Epsiba Menouin, Paul Paré, Georges Enesco, Michel Serre. Merci à Marcel Croès, Archivina, Annie Lozana, prise de son Georges Thau, mixage Alain Joubert.
Cette émission est disponible en écoute et podcast sur le site de France Culture. Nous sommes sensibles à vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. Dans quelques instants, le temps des écrivains et la semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, Jérôme Bosch.